Un tango, une danse, un baiser et un sourire.
Par les temps qui courent,
ça y est, puis 21h.
Marie Richaud.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Devant n'importe quel paysage, n'importe quelle fenêtre d'immeuble, il suffit de plisser les yeux pour que cette vision devienne tableau, motif de tissage ou élément d'une carte, tout cela ayant à voir avec l'espace et l'idée de faire tenir ensemble de la matière. Le chemin inverse vaut aussi quand nous croyons voir se dessiner à l'intérieur d'un motif abstrait l'aspect d'un rideau de fer ou la forme monumentale d'une porte. Ce sont des chemins de vue, gardés plus ou moins secrets, des fils de vie, des lignes de vie, qui ont imprimé dans vos yeux un jour le visage d'un adolescent semblant tisser la laine à partir même de l'agneau qu'il portait dans ses bras. Chez la X, voilà presque 60 ans que vous travaillez différentes matières pour ce qu'elles sont, en propre, ou pour la vibration de couleur qu'elles dégagent. Un vaste aperçu de votre œuvre non chronologique est visible en ce moment au Centre Pompidou à Paris. Donc vous êtes avec nous, bonsoir et merci d'être là.
Merci de m'inviter.
Cette exposition qui est visible jusqu'au 30 avril s'appelle « Ligne de vie ». Alors moi je disais « fil de vie », ça ne veut pas du tout dire la même chose en anglais. « Fil de vie », ça veut dire quoi ?
Il faut qu'on demande à quelqu'un qui est vraiment mieux que moi en anglais, parce que vous savez que j'habite ici en France depuis 50 ans. Donc mon anglais s'est détérioré. Mais si je me rappelle, je pense que ça, qu'il y a quelqu'un qui est overboard, tombé dans la mer, et qui est en train de se...
Noyer,
drown. On voit une ligne, ou une bouée, hein? On dit la même chose en
français? La bouée, oui.
Pour sauver la vie. Donc les amis qui sont anglophones et qui voient le titre de mon exposition s'inquiètent pour mon avenir, ou peut-être même mon présente, que quelqu'un entende de m'envoyer une bouée. Heureusement.
Est-ce que c'est facile à démêler les lignes de votre vie à vous, chez la X? Est-ce que vous les voyez clairement se dessiner? Lignes de vie.
J'ai gommé ou éradiqué mon mémoire, parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est le présent et l'avenir immédiat. J'ai une vie très, très riche, très variée, très intéressante. Je suis sûr, parce que tout le monde me dit. Mais je, pour vivre bien, ne pense pas de l'histoire et le passé.
Jamais.
Ça va être très difficile pour vous de sortir des petites... anecdote ou référence à ma vie passée, parce que moi, je le vis et l'idée fixée sur le présent et l'avenir.
Par exemple, en ce moment, vous regardez dans quelle direction alors, si on parle de l'avenir immédiat?
De survivre cette expérience, de faire une exposition au Centre Pompidou, où il y a pas mal de visiteurs. Et quelquefois, ils posent des questions nouvelles. Beaucoup de questions qui sont toujours la même question, qui sont répétitives, mais quelquefois, il y a des questions nouvelles. Il y a deux petits garçons qui sont venus l'autre jour. Ils ont regardé une œuvre qui s'appelle le menhir. Comment est-ce qu'ils s'attiennent? Parce que les autres choses, on voit, s'attiennent par des fils, des plafonds. Depuis le plafond. Mais ça, il n'y a pas des fils. Il avait 8 ans, 9 ans, deux frères. J'y viens. On va deviner et on va trouver. Est-ce qu'on peut toucher? Touche-le, mais attends jusqu'à la garde, ne regarde pas. Et on va découvrir comment est-ce qu'ils s'attiennent. Je te protège. Allez-y. Et ils ont trouvé le secret. À vous, à voir aussi, si vous trouvez. Fais attention quand même, des gardiennes. À Centre Pompidou, ils sont très sévères.
Ils ne veulent pas qu'on touche. Hein.
Non, personne ne veut que vous touchiez. Mais tout le monde qui a envie, ils arrivent quand même, je vous dis. C'est comme ça la vie.
Quand vous accueillez comme ça des questions nouvelles, vous avez l'impression de pouvoir regarder différemment votre travail ? Ou simplement ce qu'il vous plaît, c'est la nouvelle curiosité, par exemple,
l'idée
d'un enfant ?
L'idée de faire une exposition, c'est pour devenir spectateur. De sortir de l'atelier, de mettre les mains dans la poche, pas en train de travailler et tout en faire des choses, mais de regarder avec les yeux et observer, réfléchir, évaluer. Comme je fais quand je sors aussi chaque jour, quand j'ai entré ici à la maison de la radio aujourd'hui, j'ai vu le hall, l'entrée, où il y a une sculpture extraordinaire en bois, faite par Staly, que j'ai connue. C'est dans les années 60, je pense. Quand j'arrivais à Paris, quand je me suis installé à Paris en 64, on regarde, main dans la poche, on imagine combien des heures ça coûtait pour réaliser cette sculpture en bois, manuellement. Extraordinaire. Donc je fais une exposition au Centre Pompidou, je regarde combien des heures nous ont passé d'enterrer les fils. Enterrer. Et méditer, réfléchir, rêver. C'est pas un travail comme sweatshop. It's not the idea of forced labor. It's the idea of repos.
C'est pas l'idée d'un travail forcé, c'est l'idée d'une sorte de repos, de méditation. Et quand vous vous promenez dans l'exposition de votre propre travail, c'est aussi pour vous, possiblement, un moment où vous pouvez méditer, vous reposer.
Je m'assois, j'ai demandé qu'ils mettent des banquettes dans l'exposition parce que pas mal de visiteurs qui arrivent maintenant ont mon âge. Première chose qu'ils cherchent quand ils visitent des expositions.
Se reposer.
Où est-ce qu'ils peuvent s'asseoir et reposer? Et regarder, tranquillement. Donc, le designer, Yasmine, excellent designer, qui a organisé et composé mon exposition, était extrêmement coopérative. Et elle a trouvé des banquettes qui sont précieuses. À Centre Pompidou, il y a très peu. Vous avez vu? Qu'est-ce que font les gens qui veulent rester dans une exposition? Ils veulent s'asseoir. Et même, ils veulent parler avec quelqu'un qu'ils ont accompagné à l'exposition. Chez moi, c'est possible, dans cette exposition, de rester des heures. Et il y a des gens qui restent des heures. Et ils ont des projections des films.
Dans cet endroit, j'allais y venir, il y a un endroit qui est pas exactement au centre de l'exposition, mais qui peut en constituer une forme de cœur secret. On rentre, il y a quelques bancs, mais il y a surtout beaucoup de personnes assises par terre. Moi, j'ai passé beaucoup de temps assises par terre, affalées comme ça sur les copines. Et on peut regarder des films. Alors qu'ils reviennent, peut-être vous aimez pas ça, chez la X, mais sur votre parcours, avec des archives, on vous voit travailler, on vous voit regarder vos propres photographies, on vous voit à l'œuvre avec d'autres personnes, et on peut rester comme ça de longues...
Oui, la bonne chose, c'est que ça répond beaucoup aux questions. Les gens ne me posent pas parce qu'ils regardent dans ces anciens films les questions et les réponses. Et quelquefois, il y a plus de monde dans la petite cabane des projections qui est dans l'exposition même. C'est très amusant. C'est comme un entrepôt des gens qui dorment sieste et qui regardent des films et qui reposent un peu.
Vous n'aimez pas ça, répondre aux questions?
Ah oui, c'est bien. Non, répondre aux questions. Il faut que l'œuvre ou le travail a une réponse individuelle pour chaque individu. Ce n'est pas catégorique. C'est pas que c'est rouge et que c'est 3,20 m et ça représente, c'est pas de l'art figuratif. Ça représente pas une femme en kimono qui marche avec un parapluie.
La réponse est intime.
Oh, c'est même pas la pluie. Ça représente pas la pluie. Ça représente pas... Ça représente rien. Ça représente pour vous une émotion. Espérons que ça vous donne quand même une impression qui vous fait registrer d'un sens au autre. Si vous êtes français, vous avez plein de références, de littérature, philosophie, critique d'art, plein de références. Ah oui, Matisse, Proust, Sonia Delaney, Louise Bourgeois. Ça commence comme un jeu de tennis, des balles qui commencent à bouger dans l'exposition. Ah oui, ça me rappelle d'eux. Hein? Mais moi, j'ai envie que ça ne rappelle pas beaucoup de choses, que la simple chose qui, mieux dit, j'espère que ça vous donne une émotion au lieu de vous rappeler une référence.
D'ailleurs, c'est assez inexplicable chez la X parce que, par exemple, quand on fait face aux minimes, qui sont des travaux de petite dimension que vous faites depuis les années 50 et qui sont exposés là jusqu'à des travaux récents, on s'approche et en effet, on est très ému. Par exemple aussi, je pense à... Je ne sais pas si ce sont des chaussettes ou des chaussons qui sont raccommodés, qui sont mis côte à côte avec le pli des tissus et des raccommodages dans le ton du tissu initial. Par exemple, moi, ça peut vraiment me donner les larmes aux yeux. Et je ne sais pas pourquoi.
C'est pour ça qu'ils sont dans l'exposition, parce que je n'ai même pas fait. J'ai choisi. Ces chaussettes sont des carmélites des bois de Boulogne, de la couvente des bois de Boulogne. Et dans un moment donné, j'avais une commande de Air France de faire un grand panneau en technique qui s'appelle petit point, qui était pour les avions Air France 747, le Boeing 747. J'avais fait la première dans mon atelier. Et c'était pour le lancement de la 747 d'Air France. En soie sauvage, petit point. Ils ont commandé encore 4. Chacun différente, mais la même taille, bien sûr, parce que les avions ont toutes la même taille. Bon, c'était amusant, mais après un an, c'était pas tellement amusant. J'ai dit, qui peut nous aider parce qu'ils ont commandé encore 4? Le passager, première classe, qui ont pris l'avion, était déçu s'il prit l'avion, il n'avait pas la tapisserie dans la première classe, dans la partie haut. Vous n'avez jamais vu ça, non?
Moi, je ne prends pas l'avion en première classe, non.
Et trop jeune.
Certainement.
La seule fois que j'ai pris en première classe aussi, c'était quand ils m'ont invité avec mes petits-enfants. Et je voulais... On fait la traverse atlantique avec des enfants de 10 ans, 5 ans, assis dans un type de salon de bar en haut, devant le tapisserie. Et les enfants m'avaient aidé à faire ces tapisseries. Donc, c'était très amusant. Bon, on va au Boulogne pour trouver des gens qui étaient d'accord et qui avaient besoin de gagner la vie, les carmélites. On ne pense pas que les carmélites ont besoin de gagner la vie, parce qu'on pense qu'ils sont soutenus par les... Mais il manquait des moyens. Et ils ont dit, si vous avez des choses à faire, nous sommes prêts à faire, parce que nous, on travaille en silence. Ah, ça, c'est fantastique. C'est parfait. Et j'ai donné la commande de la prochaine Air France, encore 4 tapisseries. 4 panneaux, c'est des bas-reliefs plutôt que tapisseries. Ils ont fait les 4. Chacun différent. Quelle liberté! Sœur Colette m'a dit, tout le monde qui a travaillé cette chose cette semaine a dit qu'ils n'ont jamais pris un avion. Vous vous rendez compte? C'était comment être dans la baleine de Jonah et de faire le papier peint ou la décoration dans le ventre de la baleine. Et imaginez l'espace qu'ils étaient tous là en train de tapisser la baleine. Ils ont continué, nous ont fait quatre.
Des commandes.
Jusqu'à ce qu'ils ont retiré le 747 et pour gagner l'argent, ils ont converti la première classe en eau à business class. Peut-être vous avez pris.
Non, non plus.
Non plus.
Décidément.
Oh là là.
J'ai pas de chance, hein.
Mais, quand ils ont retiré cette décoration des avions, où sont partis tous ces heures pénibles
de travail.
De travail. Où sont ces tapisseries? Si un jour vous êtes au marché puce et vous regardez, vous êtes gentil de me signaler. Déjà, j'ai trouvé trois œuvres que j'avais faites dans les années 70-80 au marché puce, coupées en morceaux.
Et personne ne savait que c'était de vous.
Oui, il y a des gens les gens qui vont au marché puce, quelques-uns sont très...
Avisés.
Et ils viennent de temps en temps avec des photos. Tout le monde a des caméras maintenant. Ça peut être des vous, non, oui, ça peut.
Alors, chez l'AX, dans cette émission, généralement, je vous dis, hein, on fait écouter des archives. Et on a travaillé comme ça, nous aussi. On a choisi des archives pour parler du travail de la personne qu'on reçoit, de son œuvre, de sa vie. Et puis vous commencez l'entretien en disant « moi, ça m'intéresse, mais alors pas du tout de réfléchir à ma vie, d'écouter des archives. » Donc comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lance quand même les archives et on essaye, ou est-ce qu'on se dit qu'on continue à parler comme ça?
Moi, je n'ai pas le choix. Je suis invité.
Ah si, vous avez le choix.
Non, je ne commande pas ici. C'est vous qui commandez.
Ah, c'est pas certain.
Non?
C'est pas certain. Non, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue de discuter comme ça, ou est-ce que quand
on
même...
On peut chanter des chansons.
Ah ouais, pas de problème. Alors quoi, par exemple?
Parce que lui, il a une très belle voix.
C'est Romain de Bec de Lièvre.
Quelle chanson on chante?
Qu'est-ce que vous aimez bien? Vous chantez quand vous tissez? Quand vous travaillez?
J'écoute des belles voix.
Qui est-ce qui chante autour de vous lorsque vous tissez et lorsque vous travaillez?
Ah ça, je peux pas le... dévoiler, parce que je vais le perdre, son présence, parce que quelqu'un d'autre va l'engager tout de suite cet après-midi.
Et vous-même, vous chantez lorsque vous travaillez chez l'AX?
Oui, quelquefois. Spécialement avec mes petits-enfants, quand ils sont là.
Et qu'est-ce que vous chantez, puisque vous nous parlez de chansons?
Oh, ils vont être gênés, si je vous dis.
Ah ben, c'est vous qui mettez ça sur le tapis, c'est le cas de dire.
Quelles archives vous avez?
Alors, par exemple, on peut parler de Joseph Albers. On peut parler de femmes qui, en ce moment, parlent de leur propre tissage au Mexique. On peut parler de la fête de Holi. On peut parler de George Kubler. Ça, c'est vous qui avez amené ça. Vous voulez parler de George Kubler? C'est qui?
Ça vous dit rien?
Non.
Historien d'art. Professeur à Yale. Pendant les années 50... et 60, 70, qui enseignait pre-Columbian art history, pre-Columbian, Sud-Amérique, l'Altiplano. Et quand j'étais élève dans l'école Beaux-Arts, comme peintre, tous les élèves étaient obligés de choisir des thèmes qui l'intéressaient et de prendre des histoires de l'art. Middle Eastern, Eastern, pre-Columbian. Moi, j'ai choisi pre-Columbian. Et ça, c'était le professeur qui enseignait. Autre, c'était Vincent Scully qui enseignait l'histoire de l'architecture. Ça me formait mes idées. Que l'art, c'est un pas de notre temps. C'est le livre que j'ai amené pour vous parler, si vous voulez. Ça s'appelle « The Shape of Time ».
La forme du temps.
La forme du temps. Parce que nous sommes en train de produire aujourd'hui des formes, des objets, des images de notre temps. J'ai vécu pas mal maintenant, différentes décennies, différents temps. Et je vois le gradual change, le change, l'évolution de la forme de communication visuelle et ethnographiquement, hein, objet, dès les années 50, 60, 70, 80. Nous avons arrivé, nous avons passé par la période très très intense des graffitis, performances, théâtre, son. When everybody said, how can you have sound art?
Comment pouvez-vous faire de l'art sonore?
Dans une salle vide, dans un musée. Hein? Aux performances où les gens sont couchés par terre, inactifs pendant des heures. Et on paye une entrée à un musée pour aller voir ça. Donc, vous voyez les différentes périodes des temps, il y a des différentes formes qui expliquent notre temps ou qui reflètent notre temps. Et lui m'avait alerté, Monsieur Kubler, George Kubler, à le fait qu'il y a des choses qui sont quelquefois timeless, qui passent, et qui ont une duration d'une période plus longue que les autres. Les autres qui sont courts, short time, what you call fad, or mode, ou
une mode.
Aussi une alerte. Et après, ça change tout de suite, quelques minutes plus tard, ou quelques mois plus tard, ou quelques... Hein? Et il y a des choses qui durent, et qui resurfacent, et qui continuent. Et j'ai compris dans sa classe aussi, et dans ses conférences, que les choses qui sont faites avec le fil, le textile, les fibres, are timeless.
Ce sont des choses qui ne s'arrêteront jamais de vivre.
Ils sont périssables. Ils sont périssables. Ils sont textiles, les fils les, hein, et des cheveux. Et tout. Périssables, les squelettes, on regarde, les archéologues, on regarde. On examine le temps et on connaît le temps à travers les objets qui a produit les gens qui habitaient dans une période, dans une géographie, dans un climat. On voit les momies en Égypte et partout. Comment est-ce que les gens étaient enterrés? Avec quels objets et quelles images? Hiéroglyphes ou peintures hautes? Ça, j'ai compris que l'art avait une utilité à lire votre propre civilisation actuelle et ancienne et qu'il, à la longue, les nouvelles générations vont comprendre et étudier notre civilisation aussi. Quand ils commencent à regarder qu'est-ce qu'ils nous ont produit, comme what shape, what form, what color, what material, et notre langage, façon de faire ces choses. Nous sommes dans une civilisation maintenant des hautes technologies, très sophistiquées, et communication aussi, très sophistiquées. À l'avenir, ils vont connaître notre société à travers les choses qu'ils nous sont en train de produire. Ça, c'est une façon longue, peut-être, de dire, je suis consciente que tout ce que je fais, ce n'est pas complètement gratuit. C'est un témoignage.
Ça, vous en avez conscience. Vous ne faites aucune œuvre d'art sans penser au fait que c'est une trace que vous laissez pour les temps futurs.
Et je ne prétends pas de faire une œuvre d'art. Surtout.
Vous prétendez quoi alors?
Regardez autour de moi. Regardez les matières disponibles. Découvrir comment est-ce qu'on peut l'interpréter. Regardez le regard qui portent les autres. Voilà, faire une exposition et voir si c'est parlant ou pas du tout. Si c'est gratuit totalement. Ou ennuyeux, boring, répétitive, éclectique, hein? Ou s'il y a une seed, une semence, on dit?
Une petite graine, oui.
Une petite graine qui donne à la prochaine personne la possibilité de s'aimer la graine.
À son tour.
À son tour.
Puisque vous parlez de l'époque présente, chez la X. Nous ne sommes pas allés chercher une archive au Mexique, mais l'interview de femmes qui tissent aujourd'hui, qui parlent de leur travail d'aujourd'hui. On les écoute ?
Ce sont de quelle région au Mexique ?
Alors, je n'arrive pas à le prononcer bien.
Parce que je rentre du Mexique.
Oxxuc.
Oxxuc. Ça peut être intéressant. Est-ce que c'est à Chihuahua, peut-être ?
C'est des Chiapas.
Chiapas.
On les écoute ?
Oui, parce que j'ai une exposition à Mexique maintenant.
Ah bon ? En ce moment ?
En ce moment, à Puebla, dans un musée qui s'appelle Amparo. C'est un musée avec une grande collection d'archéologie. Mais ils ont donné un étage à une exposition de mon travail. Et j'ai inclus aussi des exemples des textiles précolombiennes.
Alors on écoute ces femmes.
Nous tissons une grande partie des textiles que nous utilisons. Mais avant, nous tissions absolument tout. En fait, le problème, c'est que les hommes ne veulent plus porter leurs costumes. Ils ont honte devant les autres personnes. Presque toutes les femmes ici savent tisser, mais la coutume se perd, peu à peu. Ceux-ci sont les designs de mon village. Cela fait très longtemps que nous les tissons et les utilisons. Nous faisons des sacs, des huipiles, des chemises. Dans chaque village, les broderies sont différentes. Elles ne se ressemblent pas. Je ne mettrai pas des costumes de Tenejapa ou de Kanduk. Chaque communauté a ses propres designs. Je crois que Dieu nous a rangés en groupes distincts. J'ai commencé à tisser avec ma mère, elle m'a enseigné ce que sa propre mère lui avait enseigné.
Chez la X, c'est Romain de Becdelièvre dont vous aimez tant la voix, qui traduit cette femme qui parle de son travail, mais je trouve que ce qui est assez éloquent dans ce reportage, c'est la manière dont elle dit que les hommes ne veulent plus porter ce qu'elle tisse, que les hommes ont honte.
Est-ce qu'on peut écouter son voix de nouveau ?
La voix de la femme ?
Mm-hmm.
Et sans Romain ?
Mm-hmm.
Ok.
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Achon tahalab sok tehmee halas no peson. Hanish agot yil yuun tismeuke.
Vous comprenez?
J'écoute la cadence, la façon qu'elle explique. C'est un tisseron.
Y compris la manière dont elle parle est une manière de tisser les mots.
Mm-hmm.
Ou le temps.
Et la répétition, hein, rythmique. Et elle est frustrée quand elle dit les hommes ne veulent plus porter, mais les hommes portent pour les grandes fêtes. Chaque année, ils ont des fêtes des villages et des fêtes religieuses, peut-être. Et ils portent, ils ont le costume. Ils n'ont pas perdu le costume, ils ont le costume. Et ils portent de temps en temps, mais pas quotidiennement. Ça, c'est à Chiapas et toute cette région de la sud du Mexique. Et à Guatemala aussi. Et c'est très beau. Et les femmes portent aussi. Et c'est très beau de voir les deux. Avec tous ces textiles tissés à la main. Et aussi brodés à la main. En mouvement. Et groupés dans les marchés, dans les places principales. et ça vaut la peine d'aller visiter.
Vous n'avez jamais cessé d'avoir un lien avec cette région-là depuis le choc, depuis les premières visions que vous avez eues de ces tissus, de ces tisserands, de ces métiers à tisser, de ce geste répétitif. Ça ne vous a jamais quitté depuis. C'est comme si vous étiez encore lié.
Non, c'est un vocabulaire assimilé. Je travaille aussi maintenant avec un groupe à Guatemala, près d'Antigua, pour réaliser des choses. Je donne des idées et je suis avec une liaison. Et dans le dernier biennale de Venise, avec une montagne de fibres que j'avais construite, j'ai aussi accroché deux panneaux que j'avais tissés en Guatemala. Sans dire à personne, pour voir si on peut intégrer tout ça, 2017. Et voir l'impression que ça donne. Est-ce que c'est timeless? Ou est-ce que c'est marqué par une époque ou par une vanishing tradition? Cette femme qui nous a parlé, elle parle d'une tradition en disparition. Mais je suis en train de la rappeler et de mettre en plein dedans la manifestation, disons, biennale des tapisseries. Biennale, pas la biennale tapisserie, biennale
d'art de contemporain.
Venise, art contemporain. C'était accepté et assimilé aussi par des jeunes de notre temps, maintenant. Et je crois qu'ils vont, on va les voir dans la prochaine biennale et dans les prochaines expositions, un écho dans l'École des Beaux-Arts ici à Paris et partout, qui peut apprécier l'intensité et l'émotion devant ce type de
investissement, engagement.
Parce que faire des graffitis, oui, c'est une façon de se émotionnellement déclarer son frustration et déclaration de liberté, dans un sens, spécialement après la tombée de la mur de Berlin, depuis. Et tout le problème qui nous ont témoigné à Afrique du Sud et des autres parts. Mais aussi, j'insiste sur la couche de la société qui ont la patience et l'intensité des focus de pas préserver tradition, mais à une simple continuation de le type d'émotion et amour pour des matières qu'on porte tous les jours.
Pour vous, c'est une question de patience?
C'est plus que patience.
De la concentration?
C'est la dédication. On porte, nous tous, depuis, dépend de quelle heure vous réveillez, mais vous dormez dans des draps, je suppose.
Oui.
Ou des couvertures.
Oh, une housse de couette.
Et vous portez des culottes.
Oui.
Synthétiques, probablement.
Là, je ne sais pas. Je dirais peut-être coton.
Coton, allez-y. Et vous portez des écharpes et des pullovers.
Et un sous-pull. Coton aussi.
Les puristes. Hein, parce que c'est rare aussi maintenant. Hein? Il y a beaucoup de fibres synthétiques qui sont infiltrer notre culture pour le bon aussi, pour le mauvais et pour le bon aussi, pratique. On lave dans 2 secondes, on accroche dans la douche, même on laisse, on prend une douche et on laisse. Et on lave les habits sur vous-même pendant que vous prenez la douche. Si vous accrochez et c'est prêt le matin. Ça, c'est qu'on fait beaucoup en Asie. J'ai remarqué en Chine quand j'étais là. C'est pas nécessaire de laver séparément les habits, on lave sur soi-même. Mais je me suis perdue.
C'est l'attention que l'on porte aux vêtements que l'on porte. Vous dites,
oui.
Ça va au-delà de la patience, c'est la concentration, c'est la délicatesse du regard ou de l'amour que l'on porte à tous ces tissus qui nous entourent.
Dès la naissance jusqu'à la mort. That's the exhibition, Centre Pompidou. On entre à gauche, on trouve
pockets.
Des choses qui sont de l'hôpital de Hadassah, de Tel Aviv. Non, de Jérusalem. L'hôpital Hadassah s'appelle. C'est la poche qu'ils vous donnent quand vous entrez à l'hôpital pour garder vos affaires personnelles. Et si vous, après, si vous n'êtes pas mort, ils vous rendent vos affaires dans cette petite. Sinon, ils donnent à la famille les affaires. Donc, au revoir, messieurs, madame. Merci beaucoup. Mais cette petite poche, c'est le coffre-fort hein, de votre vie. La montre, le téléphone, le bague. Hein. Et à la fin de l'exposition, je fais en reverse, hein, en envers. On arrive jusqu'à la fin et on voit des petits sacs de couchage des bébés. Des Suèdes, de l'hôpital de Lund. Et aussi des petites chemises des bébés que j'ai décousues et j'avais fait un énorme collage, un énorme appliqué. Pour dire que c'est pas nécessaire de penser tout le temps des textiles, mais quand même, vous êtes en contact constamment avec des textiles. Constamment. Donc, le blue jeans, le Levi, des indigo, couleur suprême. C'est la couleur qui domine notre existence avec le noir.
Comme vos yeux.
Noir?
Il y a un peu de noir, un peu de bleu.
Un de chaque.
Le holi est l'une des plus pittoresques et en tout cas la plus colorée de toutes les fêtes religieuses en Inde. Ce jour-là, les étrangers sont priés courtoisement de rester chez eux. La tradition veut en effet que chaque passant qui passe à portée de la main soit copieusement aspergé d'eau colorée ou du contenu d'un sac de poudre de couleur. Et le soir, des millions de personnages fantastiques au visage et au corps d'arlequins se promènent par les rues transformées en pistes de cirque géantes. Le spectacle est hallucinant, mais c'est surtout à Barsana, une ravissante petite localité de l'Uttar Pradesh, et dans la ville voisine de Mathura, que ces fêtes prennent leur vrai caractère et atteignent un diapason qui tient de la transe collective.
Chez la X, on vient d'entendre une archive de 1966, un journaliste français qui parle d'une vision de la fête du Holi en Inde et de la manière dont n'importe quelle personne qui passe devant une maison se fait asperger de pigments de couleur ou d'eau colorée et devient lui-même rempli de couleurs. Il y a quelque chose de très fort dans votre travail, qu'on voit en ce moment au Centre Pompidou, mais de manière générale, qui a à voir avec l'émotion pure de la couleur. Ça vient d'où, votre rapport à ça?
Dans votre document aussi, la musique compte beaucoup. C'est l'exaltation. Hein? La couleur, le costume et la musique vont ensemble. Et le mouvement. Et la couleur bouge. Elle n'est pas statique ou stable. Parce que si vous bougez, vous regardez la couleur autrement, avec la lumière et l'ombre. Donc imagine, comme ce document que nous avons écouté, tout le monde est en train de bouger avec des textiles en couleur. L'ombre et la lumière. Et la musique. Quelle exaltation. C'est la passion. C'est une gestalt, c'est un ensemble de tout ça, ensemble. Inextricablement ensemble. Donc pour moi, la couleur, impossible de le nier ou d'exclure de notre vie. On parle quelquefois qu'il y a des pays qui sont gris. qui est une absence de cette émotion et exaltation. Où est-ce qu'ils sont? Quel pays? C'est pas Inde. C'est pas Sud-Amérique. C'est où?
Ben, je sais pas, c'est à vous de me dire. Quel pays est gris?
Pour vous, vous avez visité des pays gris?
Moi, j'ai jamais vu de pays gris.
Quelle chance.
Vous, vous avez déjà visité des pays gris?
Prague en 68.
Prague en 68.
Assez gris. Je me souviens. Des autres aussi, quand même. C'est quand il y a un système politique très oppressif. Ça devient de plus en plus gris. Les gens deviennent de plus en plus anonymes. Ils ne veulent pas être vus. Ils veulent être... Parce que d'être vu, c'est mal vu. Ils se cachent et ils s'habillent comme des souris qui peuvent bouger et cacher facilement. Ils ne sont pas gays. Ils sont tristes. Même les enfants. Il y a des pays gris même maintenant. Très gris.
C'est mal vu d'être vu. Il y a beaucoup de choses qui aussi ont rapport avec le regard. Même par exemple dans ce studio. Bon, un entretien, ça a toujours à voir avec le regard. On se regarde toujours quand on parle pendant une heure. Mais vous, vous êtes très précise dans la manière dont vous me regardez quand vous parlez. Et j'ai l'impression que c'est le cas pour tout votre travail. Qu'il y a une sorte de puissance de mémorisation dans le regard, de puissance de concentration dans le regard. Vous en avez conscience?
Tous les artistes. Je ne suis pas original. Je ne pense pas. C'est bien de fréquenter les artistes. Ils vous aident à regarder. Ils vous aident à ouvrir les yeux et devenir consciente de votre environ. Même si c'est gris, quelquefois les artistes, ils ont des humeurs exaltantes. Hein? Ça passe des gris. On entre 2 semaines plus tard, c'est flamboyante. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tombés amoureux.
Vous, qui est-ce qui vous a aidé à regarder?
Qu'est-ce que?
Qui est-ce qui vous a aidé à regarder? Puisque vous dites qu'il faut fréquenter des personnes qui vous aident à regarder.
Les gens qui n'ont pas la tête plongée dans un livre des jeux et nuit, et qui ne sont pas au téléphone constant, même quand ils marchent dans la rue, ou même s'ils ils achètent un billet pour aller au cirque, ils amènent le téléphone et ils écoutent ces messages et ils parlent à des amis qu'ils vont voir dans 2 heures pendant que les chevaux et les lions forment une performance extraordinaire. Je ne comprends pas cette duplicité hein, de connecter, disconnecter. Donc, simplement, essayez, je ne peux pas conseiller les autres, mais essayez de connecter avec vous-même et avec votre environnement. Pas disconnecter.
Vous, le moment du travail, le moment de tisser, de travailler avec des tissus, avec des fils, avec de la laine, c'est un moment où vous êtes connecté avec quoi? Avec vous? Avec la matière?
Exact. Bien dit.
Avec vous et la matière.
Je n'ai pas besoin de répéter parce que vous avez déjà tout compris.
Vous êtes connecté avec vous ou avec la matière? Avec
oui.
Les deux?
Oui. Oui. Et tactilement et visuellement, et même le cerveau est connecté. Les yeux, le cerveau, les mains. L'environnement.
Est-ce qu'il y a des matières aujourd'hui que vous préférez?
Cet matin?
Oui, ce matin. Ce soir.
C'est pas mal cette chose ici devant moi.
C'est quoi alors? Décrivez ce que vous
c'est
avez devant
vous. C'est synthétique. Et c'est collé sur le bureau.
Sur la table du studio, oui.
Je n'arrive pas à savoir parce que c'est encastré.
Et c'est fait pour que ça ne fasse pas de bruit en fait.
Ah.
Bah oui, c'est-à-dire que quand vous posez vos mains là-dessus, ben, c'est pas sonore. Donc
c'est
on entend
matière,
surtout votre voix. Je ne sais pas dire ce que c'est exactement.
Conçu pour le sonore, c'est synthétique. Hein? Mm. mais un ingénieur a fait.
Ça, vous l'aimez bien, par exemple.
La chose qu'il faut savoir, c'est que les ingénieurs ne sont pas des gens embêtants. Hein. Ils ont des cerveaux aussi très créatifs. Si un ingénieur vous invite à prendre un café...
Il faut accepter.
Il faut accepter. Ce n'est pas quelqu'un ennuyeux. Parce qu'ils ont plein de fantaisie et aussi un sens pratique de trouver une solution. Ils sont axés sur des problèmes à résoudre ou d'inventer des problèmes qu'il faut résoudre.
J'aimerais bien vous faire écouter un texte de Paul Klee, lu par Romain de Bec-de-Lièvre.
C'est un artiste que j'aime.
Alors on l'entend.
L'art plastique n'est jamais fondé sur une atmosphère poétique, ni sur une idée quelconque, mais sur la construction d'une ou plusieurs figures, sur l'accord de quelques couleurs et de quelques valeurs. La toile, le fond pictural, les couleurs sont des objets terriblement modestes. L'exécution d'un tracé, le traitement de la forme, n'offre pas plus de charme. Quelle distance me sépare encore de l'expérience vécue de ces éléments ? En attendant, la notion d'art de vivre me paraît bien plus passionnante.
Chez Laïx, Romain de Bec-de-Lièvre lisait un extrait d'un texte de Paul Klee, qui date du début du XXe siècle, où il dit « L'exécution d'un tracé, le traitement de la forme n'offre pas plus de charme. Quelle distance me sépare encore de l'expérience vécue de ces éléments ?» Et ensuite, entre parenthèses, « En attendant, la notion d'art de vivre me paraît bien plus passionnante. » Je trouve ça beau qu'il termine par ce sourire. Après avoir tellement parlé de l'art plastique, finalement c'est l'art de vivre qui lui paraît bien plus passionnant.
Qu'est-ce qu'a fait Paul Klee quand il était au Bauhaus? Il était professeur. Mais tous les professeurs étaient aussi élèves parce qu'il avait l'esprit ouvert. Qu'est-ce qu'a fait Paul Klee?
Des couleurs?
Non, il a fait et s'enregistrer. On a trouvé la façon d'infiltrer la classe des tissages. Weaving. He was weaving. You can see this in his painting. On le voit dans ses tableaux. Et vous savez, il n'a jamais fait des grands tableaux. Il a fait toujours au portée humain, très, très intime, petite échelle. But he also a étudié weaving. Rauschenberg aussi. Vous savez, l'artiste américain, Robert Rauschenberg.
Il a aussi étudié le tissage.
Il m'a dit quand il était à Black Mountain College, il a fait aussi weaving. Même quand il avait un fils, il a tissé son premier poncho pour l'hiver. Je demandais où c'est le poncho maintenant. Parce que c'est une chose qu'on garde. Imagine de trouver un poncho tissé par Rauschenberg.
Pour son fils.
Dans un marché puce quelque part, non? Les hommes ne vous confiez pas ses secrets facilement, parce qu'il y a pas mal qui tissent en secret. Pour comprendre le verbe et le noun, et comment intégrer le mot quand on écrit, le poète, les écrivains, comment est-ce qu'on utilise la chaîne et la trame pour arriver à une expression bien harmonieuse. Après, d'ajouter la broderie, adjectives and adverbs, substructure, après superstructure.
Comment ajouter des adjectifs, les adverbes sur la superstructure? Vous êtes en train de comparer chez la X le langage, la pensée et le tissage.
La façon de construire. Base, avoir une base solide sur la base de construire. On peut aller d'une cabane jusqu'à un gratte-ciel. Si c'est bien...
C'est des bonnes fondations. Et alors Paul Klee, il tissait en secret?
Non, il n'était pas gêné de dire à tout le monde « Cet après-midi, je veux tisser. » Il était dans une classe de Bauhaus, avec son petit métier aussi. En train de croiser des couleurs. Probablement dans des angles droits. Parce que regardez ces tableaux. Ils sont très, très structurés.
Quand il dit que ce qui l'intéresse le plus, finalement, le passionne le plus, c'est l'art de vivre. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Le pauvre. Imagine le malheur de se trouver en pleine extase au Bauhaus et après avoir l'ultimatum qui enferme la maison. Qu'est-ce que ça veut dire l'art de vie quand d'un jour à l'autre, vous êtes mis à la porte et vous êtes dans la rue et vous ne savez pas où aller. Suisse. Mais ça, c'est pas très gay non plus.
Qu'est-ce qui vous plaît tant dans l'art de Paul Klee? Lorsque je vous ai proposé qu'on lise un texte de Paul Klee, vous avez dit « Ah, ça, c'est bien, parce que c'est un artiste que j'aime.
Mm-hmm. »
Pourquoi c'est un artiste que vous aimez?
Couleur, forme, inextricable. C'est pas comme Henri Michaud, où il y a des encres qui sont comme des calligraphies, qui c'est en écriture. Vous voyez, ou comme des calligraphies chinois, japonais, autres, que c'est un geste avec un langage. Paul Klee, c'est une chose intégrée, c'est la forme, la couleur et les images quelquefois ambiguës, quelquefois réalistes, mais quelquefois ambiguës dans le sens d'interprétation. C'est une base. Et aussi le fait que les échelles me conviennent quand je regarde. Toutes les petites œuvres que je fais moi-même peuvent être des extensions, un peu le. Je ne veux pas dire Paul Klee, mais dans compatible avec son vision. Peut-être.
Ces petites œuvres, on peut les voir dans cette exposition, visible en ce moment au Centre Pompidou, jusqu'à la fin du mois d'avril. Et parfois, on vous trouvera comme ça, assise par hasard au milieu de la pièce.
Dans la cabane.
En secret. Au milieu des gens qui sont en train de se reposer.
Non, je regarde à travers la fenêtre. Parce que c'est rez-de-chaussée et c'est conçu qu'on peut voir l'exposition même sans entrer le musée.
Exactement.
On peut passer devant le fenêtre.
Dans la rue.
Rue Saint-Merry.
À Paris.
Et il y a autant de gens à l'extérieur qui regardent par la fenêtre que les gens dedans qui regardent les œuvres et qu'ils ont payé des billets. Donc, gratuitement, on voit l'exposition dès la rue. Et j'adore ça. Et spécialement quand il pleut. Quand plein de monde qui passe avec des parapluies, les couleurs, devant la fenêtre. Et l'autre jour, quand il a neigé, quel bonheur. C'est une tombée des neiges que Paris voit rarement. Splendide. Et c'était extraordinaire avec l'exposition en full color. Et la grande couchée de neige partout. C'était la nuit de le vernissage. C'est un message. C'est un message. Je ne sais pas qui a fait, mais...
Merci beaucoup, Sheila X. Le titre de cette exposition, c'est « Lignes de vie ». Le commissaire s'appelle Michel Gauthier. On peut se rendre au Centre Pompidou jusqu'au 30 avril prochain. Et on peut aussi se procurer le catalogue « Lignes de vie » aux éditions Centre Pompidou.
Sacré géranium.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous fait rire?
Quand les gens prononcent des mots qui ont un double sens. Parce que moi, j'écoute et ça me fait rire parce que je connais déjà une troisième langue et quatrième. Donc, c'est comme une petite pierre qui tombe dans l'eau et qui a plusieurs niveaux.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous fait peur?
Les gens qui disent, c'est pas comme ça.
Et par les temps qui courent, où vous sentez-vous le mieux?
Où est-ce que je sens le mieux? Quand je suis en train de réveiller le matin. Et je suis moitié dans le sommeil et moitié en alerte. Et je n'ai pas encore compris si c'est jour ou nuit. Et je n'ai pas encore compris quel jour il est. Et j'essaie de me situer. Où est-ce que je suis? Où est-ce que j'étais récemment? Ça veut dire hier soir. Et où est-ce que je vais tomber si je ouvre les yeux et qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est pour moi le moment magique, cette petite interlude.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h et quand vous voulez sur le site internet franceculture.fr ou en podcast. Ce soir, c'était Pascal Bénard au son, Lise-Marie Barré à la réalisation, Jeanne Aléos, Corinne Amar, Romain Debec-Delièvre à la préparation de cette émission. Et quant à moi, je réponds @MarieRicheux sur Twitter.
On se connaît bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de chou pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.